En fait, c'est l'adolescence, c'est une partie de notre vie où nos émotions, on les contrôle pas forcément. Ou par exemple, on va pleurer pour un rien, on va s'énerver pour un rien. On peut être joyeux le jour et 2 minutes après, on ne sait pas pourquoi on va être énervé. C'est très compliqué dans notre tête.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi de détente totale, sauf pour vos neurones qui, eux, restent en tension. Puisqu'ici, tous les jours, on décrypte un mot ou un phénomène dans l'air du temps. Et aujourd'hui, ce mot est aussi un phénomène. Alors que la série Adolescence bat tous les records sur Netflix, on a décidé de zoomer sur cet âge charnière si difficile, si ingrat, si excitant aussi, l'âge de la transformation de l'enfant en adulte, transformation par laquelle on est tous passés, sauf Quentin. Quentin, qui restera à jamais cet ado de 19 ans, qui voit ses potes entrer au Bayokos alors que lui reste bloqué à l'entrée, non, empêché d'avancer par la main du videur, enfin le doigt du videur qui suffisait amplement. Mais monsieur, regardez ma carte d'identité, c'est écrit date de naissance 1991, voyez bien que j'ai plus de 18 ans. Ouais, mais c'est aussi écrit taille 1m42. En plus c'est un faux, alors du balai. Alors Quentin rebroussait chemin, la mort dans l'âme, pendant que dans sa tête résonnait la phrase terrible que, bien des années plus tard, son rédacteur en chef lui assènerait à chaque conférence de rédaction quand il proposerait une idée saugrenue.
T'es qu'une merde.
On a tous des souvenirs douloureux de l'adolescence. Est-ce pour autant qu'on la traverse de la même manière? Y a-t-il des dénominateurs communs à toutes les adolescences? Peut-il y avoir des adolescences heureuses? Ou bien le changement se fait-il toujours dans la douleur? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
On peut peut-être préciser que je suis heureux dans ma vie quand même.
Et que tu fais 1m72.
C'est, mais bon, ce que ça, voilà. C'est vrai.
Bah, c'est vrai. Vérifié. Ça. On m'a mesuré. On m'a mesuré.
On vous a mesuré?
Dans le bureau. Manon.
Oui, c'est vrai, je l'ai mesuré.
C'est vrai que ça a été fait vraiment, ça? C'est honteux. Bonjour David Gourion.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes psychiatre, David, spécialiste des adolescents et des jeunes adultes, ancien chef de clinique à l'hôpital Sainte-Anne et docteur en neurosciences. Vous avez publié de nombreux livres comme, sur les ados, pardon, comme par exemple La fragilité psychique des jeunes adultes, 15-30 ans, prévenir, aider et accompagner chez Odile Jacob. Et en octobre dernier, Le secret des ados heureux pour protéger la santé mentale de nos enfants, toujours chez Odile Jacob. Que se passe-t-il au collège? Qu'est-ce qui se joue dans ce moment charnière dans la vie d'un adolescent? On va en parler cet après-midi. Juste le temps de vous présenter deux éternels ados. Ces mines resplendissantes, cette odeur permanente de gin tonic qui émane de leur personne. Ils sont forever young. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
À vos côtés, David. C'est rare qu'on puisse dater l'apogée d'une adolescence. Elle, c'est clairement le 28 juin 2003, durant ce spectacle de fin d'année des 5e B du collège Pierre Fourier, qu'elle a connu cette apothéose, quand acmé rimait avec acné. Manon, sachez que j'ai été contacté par quelqu'un qui aurait, j'utilise le conditionnel parce que je ne voudrais pas te faire de fausses joies,
non, mais c'est vrai,
qui aurait la VHS de ce spectacle. Cette personne doit encore la numériser pour me l'envoyer, mais comme évidemment, c'est un professionnel de l'audiovisuel, ça ne devrait pas poser de problème. En attendant, Manon, chaque après-midi, vous nous brossez le portrait de l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
Oui.
Elle est livide.
Oui. Mais j'ai très très peur de ça.
Oui, bah, vous avez raison.
Le co-scénariste, co-créateur et acteur principal de la brillante série Adolescence qui nous a inspiré le thème du jour, il est anglais et vous l'avez déjà vu dans pas mal de films.
Face à vous, David Gourion, c'est en tombant sur son histoire fascinante qu'en 1922, Francis Scott Fitzgerald aura l'idée de sa nouvelle « L'étrange histoire de Benjamin Button ». Car oui, en 1922, Quentin naissait à l'âge de 127 ans. Un siècle plus tard, il arrive seulement dans sa trentaine. Dans 6 ans, il aura 20 ans. Il ne peut même plus se tailler un bouc correct. La dernière fois qu'il a essayé, le barbier lui a dit « Monsieur Lui, un bouc c'est joli quand on a de la barbe, pas du duvet ». C'est cet air juvénile et innocent qui vous permet, Quentin, d'aborder les passants facilement et de les faire réagir à notre mot du jour.
Et même de me fondre dans le décor, puisqu'on va prendre la direction de la cour d'un collège. J'ai demandé aux ados justement comment se passe cette période de la vie, on l'a entendu un petit peu en début d'émission, entre groupe, clan, émotion, colère, tristesse et incompréhension des adultes. Vos ados dans la prochaine demi-heure dans le micro-trottoir de Zoom Zoom Zen.
Vers 16h30, nous jouerons avec l'adolescence et comme jouer avec l'adolescence peut être piégeux, Jean-Marc Morandini peut en témoigner, nous nous contenterons de jouer avec ces actrices et ces acteurs célèbres qui ont percé dès l'adolescence. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Camille Lorente qui nous délivrera son point de vue sur l'adolescence. Mais d'abord, David Gourion, quand on entend parler d'adolescence, on pense à crise d'adolescence. C'est la première chose qui vient à l'esprit. Est-ce que c'est forcément un moment de crise, l'adolescence?
Non, pas forcément. Il y a plein d'adolescents qui vivent très bien et très, très sereinement leur adolescence. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, crise d'adolescence, parce qu'en tant que psychiatre, parfois, les gens, je vois des parents qui me disent « Voilà, notre adolescent est en crise ». Bon, je ne sais pas bien, est-ce qu'il s'est un peu opposé? Puis parfois, il y a des problèmes de santé mentale qui peuvent être très 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 important, hein, des troubles bipolaires, des troubles schizophréniques, des trucs, parce qu'on sait que c'est une période où c'est là que c'est fragile, le cerveau. Donc je me méfie, moi, de cette expression crise adolescence, je sais pas du tout ce que ça veut dire, et il faut que les gens me décrivent un peu ce que c'est.
Et c'est pas automatique, donc on parlait plutôt de fragilité à cette période-là de la vie. Qui peut déboucher sur quelque chose. C'est un miracle qu'il nous faut saluer aujourd'hui. Face à vous, David Gourion, un homme qui, il y a une semaine encore, parlait anglais comme une vache espagnole.
Why are you people having so little sex?
Un véritable naufragé de la langue de Shakespeare qui, sans que personne ne soit en mesure d'expliquer ni pourquoi ni comment, a été touché par la grâce jeudi dernier quand, pour la première fois de sa vie, il a soudain prononcé une phrase en anglais sans qu'on ait l'impression qu'il faisait un AVC. Mieux, avec ce qu'il faut bien admettre, ressemblait à un vrai accent américain.
Quand Donald Trump dit « drill, baby, drill ». Drill, baby, drill.
Oh yeah. Oh yeah.
C'est pas bon, quoi.
Cyril Lacour, yeah. Oh my God.
Il se fout de moi.
Amazing. That's amazing.
Non, mais le remix, il est ouf.
Alors, ouf.
Le remix est ouf. Un point en plus pour Manon.
Merci.
Dans le quiz tout à l'heure. Cyril, bravo pour votre bilinguisme.
Oui, je vous en prie.
Et racontez-nous, puisqu'on est là pour ça quand même, l'adolescence, d'où ça sort?
Eh bien, c'est un mot qui nous vient du latin adolescere, qui signifie grandir ou celui qui est en train de grandir, de se développer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que s'il y avait un mot, s'il y a toujours eu un mot, en fait, l'adolescence n'a pas toujours existé. Durant des siècles, on passait de enfant à adulte, comme ça, d'un coup. Un jour, tu joues avec ton Big Jim, et le lendemain, tu te retrouves marié et tu pars bosser. Oui, le Big Jim. Forcément, ça pouvait être un choc. Et puis, ça a changé. Déjà parce que, grâce à l'école rendue obligatoire par Jules Ferry, en faisant rester les enfants plus longtemps à l'école, on allonge le temps où les enfants sont autorisés à simplement grandir, sans se retrouver dans le costume trop grand de l'adulte.
Un livre aussi va être marquant.
Celui du psychologue américain G. Stanley Hall, Adolescence, un livre publié en 1904. Le psychologue est le premier à véritablement décrire cette période comme un moment de crise, d'exploration et de transformation. Transformation intellectuelle et transformation physique, les deux allant souvent ensemble. Avec cet ouvrage, Hall pose les bases de la notion moderne même de l'adolescence. Quant à savoir jusqu'à quel âge s'étire l'adolescence, avant c'était 12 ans, puis 18 ans, d'autres disent 25 ans. Moi je pense qu'on peut même aller jusqu'à 50 content carrément.
Pauvre vieux.
Alors, qu'est-ce qu'être ado aujourd'hui? Comment se construire quand tous ceux autour de nous se cherchent également? Pourquoi le collège est-il un lieu d'apprentissage si compliqué et si redouté? Comment les réseaux sociaux compliquent encore un peu plus ce cheminement? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril, et juste pour le plaisir, à la demande de Manon, on se réécoute votre nouveau tube.
Drill, baby, drill. Drill, baby, drill.
Ça marche bien.
C'est vrai que ça marche.
C'est trop bien.
C'est exceptionnel.
Bon, c'est ouf.
David Gourion, à partir de quel âge, jusqu'à quel âge on est adolescent? Est-ce qu'on sait même le définir?
Oui, on essaye de le définir. Alors, l'âge de fin, on voit qu'il recule de plus en plus. Il y a de plus en plus d'adultes avec des chemises ouvertes. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi.
Ça, c'est pour Cyril.
C'est pour Cyril, suivez-nous en vidéo. Très bon début d'émission, non, monsieur Gourion.
J'ai aussi une chemise ouverte. Non, le début, on le date 11-12 ans. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des processus biologiques et sociaux qui sont à l'œuvre. Mais la puberté est de plus en plus précoce. Et on le note en particulier chez les filles. Et puis, la fin de l'adolescence, alors les neurosciences nous disent, en fait, le cerveau continue de se former et de maturer jusqu'à 25 ans. Donc, biologiquement, on pourrait aussi dater à ce moment-là. Mais je redis, qui autour de cette table ne se sent plus du tout adolescent? C'est une vraie question.
À laquelle il faudrait plus d'une heure pour répondre. Est-ce que les enfants grandissent plus vite aujourd'hui? Au contraire, on a tendance à rester plus longtemps dans cette période d'adolescence.
Oh là, on a combien de temps pour répondre à cette question?
Deux minutes.
Deux minutes, en fait, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont beaucoup plus précoces sur certaines choses que la génération d'avant, et puis les réseaux sociaux ont apporté beaucoup de choses dans ce domaine, bonnes ou mauvaises, on en parlera sans doute. Et de l'autre côté, il y a une adolescence qui se prolonge de plus en plus tard, une dépendance aux parents qui se prolonge aussi de plus en plus tard. Donc les deux en même temps, plus précoce et plus tardif.
Ça veut dire que, c'est quand même assez fascinant, l'adolescent des années 60 n'est pas l'adolescent des années 2020.
Ah non. Non, mais il suffit pour s'en convaincre de regarder les modèles d'identification, de regarder les séries des années 60.
Il y avait peu d'adolescents représentés.
Il y avait peu d'adolescents, vous avez parfaitement raison. Les modèles d'identification, c'était plutôt des adultes. Et aujourd'hui, les séries d'adolescents, c'est des adolescents. Donc, c'est des modèles beaucoup plus verticaux. Ils s'identifient beaucoup plus. Ces modèles d'identification ont changé. Le modèle du rappeur, etc. Je crois que j'avais vu un sondage, la personnalité préférée des ados, il y a quelques mois, c'est Soprano.
Soprano qui ferait un très bon invité dans Zoom Zoom Zen à l'occasion, si on arrive à caler cette émission.
Ce que vous dites est intéressant sur les années 60. Est-ce que c'était une vraie période de la vie? J'ai l'impression qu'on tombait plus à 14 ans vers l'adulte.
Oui, sur ce que disait Cyril tout à l'heure. On basculait assez rapidement de l'enfance finalement à l'âge adulte avec les responsabilités.
Oui, puis il y avait un truc qui était très... Il est interdit d'interdire. Il y avait des processus qui étaient beaucoup plus collectifs, en fait. Mmh. Où, je pense, les adolescents voulaient se positionner en rupture avec la génération d'avant et avec, et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus individualistes. Il y a cette sorte d'hyper-choix des réseaux sociaux où on a accès à tout et en même temps, ça les isole considérablement.
France Inter. Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël.
Quand une série devient un phénomène de société, nous, on a envie d'y consacrer une émission. À l'heure où la série Adolescence triomphe sur Netflix, on a donc voulu se pencher sur cet âge si complexe en compagnie d'un spécialiste, puisque David Gourion, vous êtes psychiatre spécialiste de l'adolescence. Vous avez évidemment vu la série ?
Absolument, j'ai adoré.
Vous l'avez adoré, on est nombreux à l'avoir adoré, mais en tant que psychiatre, qu'est-ce que vous retrouvez de justement décrit, de fidèle à ce que vous voyez, vous, dans vos consultations, de l'adolescence, du phénomène de l'adolescence ?
C'est une série brillante parce qu'elle elle parle justement de choses qui sont rarement abordées, en particulier la question de la sexualité des adolescents. C'est un sujet difficile à traiter. C'est fait hyper finement avec des acteurs incroyables. Peut-être quand même, moi j'ai un petit point critique sur cette série, c'est qu'elle sociologise beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression au fond que le problème c'est les réseaux sociaux, le dialogue avec les parents, alors que moi, de mon point de vue, il y a quand même un vrai sujet de santé mentale aussi qui est peut-être pas abordé autant que le spécialiste que je suis aurait voulu. Mais je la trouve quand même extraordinaire et bluffante d'intelligente, cette série.
Parce que la série parle beaucoup de la montée aussi du masculinisme, des incels, etc. Vous, c'est quelque chose que vous voyez à travers les témoignages des ados que vous recevez ?
Ben, c'est quelque chose qu'on a toujours vu. C'est pas les Américains qui ont inventé le virilisme. Alors, il y a ces groupes-là, évidemment, qui existent. Mais en tout cas, ces discours-là entre garçons, on les a toujours entendus. Ils sont peut-être plus puissants ou avec des répercussions plus fortes aujourd'hui avec les réseaux sociaux, en effet. Mais je redis, tous les ados qui écoutent en permanence ce genre d'ânerie ne vont pas forcément commettre ce qui se passe. Mmh. C'est en ça que je dis, il faut faire attention. Il y a toujours un truc très compliqué, multifactoriel en médecine. Ce n'est pas juste. Je ne voudrais pas que les gens se disent « les réseaux sociaux, c'est hyper dangereux, il faut arrêter, etc. » Parce qu'on pourrait avoir un peu ce côté-là.
Non, mais c'est plus sur le rapport homme-femme.
Sur le rapport homme-femme.
Qui change.
En réalité, ça a toujours été très compliqué. On en parle plus aujourd'hui, il y a eu MeToo, heureusement, etc. On en parle plus, et peut-être qu'on met les mots et qu'on comprend mieux. Probablement aussi que parce qu'il y a eu MeToo, il y a ce mouvement un peu réactionnaire de balancier qui va de l'autre côté et qui fait pas du bien. Mais ça, une problématique a toujours existé, sauf qu'on en parle plus aujourd'hui.
La haine des femmes, ce qu'il faut revenir peut-être au pitch sans rien spoiler de la série, c'est l'histoire d'un adolescent qui est accusé d'avoir tué une camarade de classe. Cette haine des femmes qu'on comprend en filigrane assez vite dans la série, c'est quelque chose auquel vous avez déjà été confronté, vous, en tant que psychiatre, chez les jeunes adolescents ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est pas tant la haine des femmes que la haine des femmes qui échappent au désir, qui ne sont pas les objets qu'on voudrait qu'elles soient, passifs et soumis.
Peut-être aussi un décalage, entre la pornographie, qui, je crois que tous les adolescents ils sont confrontés ou vont parfois regarder des vidéos pornographiques, ce décalage entre cette image-là et leur quotidien, qui est effectivement, c'est pas du tout le même rapport aux femmes.
Vous avez super raison, d'ailleurs, je vais pas vous contredire, j'ai vu comment ensuite vous pouviez tacler.
Oui, faites très attention.
Mais je fais très attention, mais c'est vrai, il y a quelque chose de la formation aujourd'hui, l'éducation sexuelle, c'est du porno ultra trash, dès la 6e, parce qu'ils ont tous leur téléphone portable, et ceux qui ne l'ont pas regardent sur les téléphones des autres. Donc, quelque chose qui est en effet en décalage absolu, puisque là, la femme qui est présentée là, c'est vraiment la femme objet.
Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer a dit avant-hier que la série allait être diffusée gratuitement dans les collèges et les lycées du pays. J'imagine que vous pensez que c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est pas un signe d'impuissance que ce genre de sujet soit traité par la plateforme, les plateformes, et non par le système éducatif ?
Moi, je pense que diffuser la série, s'il n'y a pas derrière des explications, un soutien pédagogique, des adultes qui sont capables de décrypter, ça n'a aucun sens. Parce que je ne sais pas bien comment des jeunes ados un peu immatures vont l'interpréter, la série. Ils vont même peut-être trouver ça très cool d'envoyer des émojis avec des cœurs bleus pour dire que... Donc, je pense que la série, ça peut être un très bon support pédagogique, mais il faut derrière qu'il y ait des explications qui vont avec.
En France, on met difficilement en place des cours obligatoires à l'éducation sexuelle et affective. Vous le ressentez que les jeunes sont en manque de ça ?
Ben, ils sont en manque de ça, en fait. Ils ont très peu... On l'a dit, en fait, leur principale source d'information sur le sujet, c'est les vidéos porno ultra trash. Les parents sont toujours très gênés, c'est compliqué d'en parler avec les ados, donc par défaut, ben, finalement, on finit par ne pas en parler. Et puis, les 6 heures d'éducation, 4 heures, je sais pas, sont quand même...
Il faudrait que ce soit plus. Il faudrait que ça passe par le système scolaire.
En réalité, dans notre pays, contrairement à d'autres pays, je pense à la Suède, etc., c'est quasi inexistant. Et dès que vous essayez de faire rentrer un peu plus à l'éducation nationale, parce que tout le monde dit « il n'y a qu'à faut que », mais vous vous heurtez derrière... à beaucoup de choses compliquées. De... Oui. Exactement.
J'aimerais revenir un instant au petit billet introductif assez exceptionnel de Cyril Lacarrière, qu'on ne complimente jamais suffisamment. Le doux assassin, cette phrase prononcée par Cyril. Comment se construire quand tous ceux autour de nous se cherchent également ? Il y a une difficulté au cœur de l'adolescence, c'est qu'à l'adolescence, on évolue avec des adolescents qui eux-mêmes se construisent. C'est compliqué. Est-ce qu'il faudrait avoir un. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, les adolescents qui fréquentent un peu certains adultes, qui ont des références, des amis plus âgés, c'est intéressant ou pas ?
Ah oui, je pense que c'est intéressant. Je pense aussi que la question de la mixité est hyper importante, la mixité ethnique, culturelle, etc. On sait que ça améliore les problématiques de l'empathie. Mais l'adolescence, moi je trouve celui qui a vraiment tout dit sur l'adolescence, ça prend un peu de temps de le relire, c'est Proust, qui disait « c'est le seul temps où l'on est appris quelque chose ». Et je trouve qu'il y a quelque chose... Cette phrase, elle dit tout, en fait, de l'adolescence. Seul temps où l'on est appris quelque chose.
Et en plus, c'est une des phrases les plus courtes de Proust, donc on peut le remercier pour ça.
Étonnamment.
Je me permets de vous interrompre parce qu'on doit se presser un petit peu. Si on attend trop, il risque de muer à l'envers, ce qui serait très désagréable pour l'auditeur. Quentin Lui, notre Benjamin Button du micro-trottoir, est allé vous poser la question « Et vous, l'adolescence, ça vous évoque quoi ?»
Nous sommes dans le 19e arrondissement de Paris, ça faisait longtemps que j'avais pas marché dans la cour d'un collège. La peinture colorée des lignes du terrain de basket est un peu usée par le temps. Sensation bizarre, l'impression de connaître les lieux et le sentiment de voir remonter de petites angoisses. Je demande à Raouf, 13 ans, comment se passe sa récré ?
Très bien, je joue au basket.
Qui gagne ?
Moi, parce que je suis le plus fort.
Ah oui, l'adolescence est la période où l'on doit s'affirmer et ça commence aussi dans la cour de récré. Il découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
L'adolescence, c'est une des meilleures parties de notre vie.
Tu penses ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que quand on est jeune, on est libre de sortir quand on veut, on n'a pas trop de responsabilités et on peut faire ce qu'on veut, quoi.
Il a raison, curieuse période où l'on se sent libre de nos déplacements, de nos actes, sans les problèmes d'un adulte, l'emploi du temps, la charge mentale, l'argent. Je fais un constat dans cette cour de collège, il n'y a quasiment pas de filles dehors, la plupart sont au CDI pendant les récrés. L'un des garçons veut parler des filles, justement.
Vous vous rendez pas compte, mais les filles, c'est vraiment quelque chose hein, quand ils sont adolescentes. Hein. Ils seront tout permis. Quand ils sont en groupe, ils font les stars, on va dire, et ils parlent pas aux garçons et tout.
De quoi ?
Les faits de groupe, ça donne des ailes.
Pourquoi c'est parfois compliqué avec les filles ?
Il y a des moments où c'est difficile parce que parfois les filles trouvent des choses qui vont te blesser et qui vont dire à toutes leurs copines et toutes leurs copines vont commencer à t'afficher devant tout le monde.
Ça peut finir avec de la violence, quoi.
Bah oui, c'est sûr.
Ça peut finir avec de l'harcèlement, de la violence, du cyberharcèlement.
Et on sent poindre les premières fractures de genre. Alors je rentre dans le CDI, ça sent le livre et la salle de classe. Je m'approche de cet élève en train d'écrire.
Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 13 ans et je suis en 5e.
Elle me confirme ce que j'observe.
La plupart du temps, les filles restent avec les filles, les garçons avec les garçons.
C'est des clans, un peu ?
Ouais, un peu comme ça, chacun son groupe, quoi. Il y a souvent des embrouilles où les clans, enfin les groupes se séparent. Bon, après, ils se réconcilient, mais des embrouilles comme ça.
Il y a du dialogue ? Il y a la place pour ça quand on est ado ?
Ouais, des fois, pas tout le temps. Des fois, c'est vraiment, on veut pas se parler, c'est compliqué.
Mais alors, qu'est-ce qui change finalement dans leur environnement par rapport à l'enfance ?
Les réseaux sociaux, déjà. C'est un peu l'âge où t'as le droit d'installer... tes parents te laissent le droit d'installer les réseaux sociaux. Souvent, tu peux changer de style... Rien que les styles de vêtements, il y a beaucoup des gens qui harcèlement ou des trucs comme ça sur les vêtements. Tout le monde critique un peu les autres.
Je descends les marches et je tombe sur Swan. Bandeau de Michael Jordan dans les cheveux, look de basketteur, il a 12 ans.
L'adolescence ? Ah ouais, c'est un sujet quand même, hein, l'adolescence. Hein.
Pourquoi ?
Parce que c'est une phase où il y a plein de choses qui se passent dans notre tête, même dans notre corps. Dans notre tête, tout s'installe. C'est là où se crée notre personnalité, notre vie.
Alors, comment ça se passe la phase collège pour lui ?
Ça se passe bien, mais en fait, on est toujours sur nos gardes parce que le collège est différent de la primaire. Il y a une sorte de jugement constant. En fait, l'adolescence, c'est une partie de notre vie
où nos émotions, on ne les contrôle pas forcément, où par exemple, on va pleurer pour un rien, on va s'énerver pour un rien. On peut être joyeux le jour et deux minutes après, on ne sait pas pourquoi on va être énervé. C'est très compliqué dans notre tête.
Je lui demande comment ça se passe avec ses parents. Il est content car il est en option basket, mais trois entraînements par semaine, plus les cours, plus les devoirs à la maison.
Sauf que, par exemple, pour les devoirs, avec ma mère, c'est assez compliqué parce qu'on s'embrouille très souvent. Et maintenant, il y a moins de moments de joie. Et en plus, vu que je suis plus au collège qu'à la maison avec elle, quand on se voit, en fait, c'est souvent pour le travail et on n'est souvent pas d'accord, donc c'est compliqué.
C'est quoi le secret? C'est de quand même se parler et de continuer à...
Oui, c'est ça, en fait, le secret, c'est pas... C'est juste toujours trouver des moments amicaux, se parler, faire des jeux, faire des sorties, comme ça on garde cette liaison avec nos parents, parce que c'est très important quand même.
Avant de filer, je lui demande s'il a le sentiment que les adultes qui sont passés par là peuvent comprendre le moment de sa vie.
Les parents, ils se rendent vraiment pas compte de ce qui peut se passer dans notre tête, même s'ils nous le disent, oui, je comprends qu'aujourd'hui t'es un peu fatigué ou des choses comme ça. En fait, l'adolescence, c'est même quand on est déjà passé par là, l'adolescence, ça peut pas se comprendre sur le moment même.
Merci.
Merci à vous.
Ouais, trop cool.
Ouais, c'était génial.
Elle est délicate, cette période, pour les ados et pour les parents. Un enfant qui n'en est plus tout à fait un adulte en devenir, entre liberté, colère, tristesse, émotion à gérer. Bienvenue dans l'effervescence de l'adolescence.
David Gourion-Proust a bien parlé d'adolescence. Swan, il en parle pas mal aussi. Même quand on est déjà passé par là, l'adolescence, ça peut pas se comprendre, nous dit-il. Quelles sont alors les clés en tant que parent pour ouvrir le dialogue? Parce que ce qu'il dit, c'est très vrai.
Ils sont géniaux, ces ados. Hein. Je les avais bien. Franchement, ils sont extraordinaires.
Ils parlent.
Ils parlent bien. Ils disent plein de choses. Ce qu'ils disent, en fait, c'est que les adultes ne comprennent pas la violence de ce qu'on peut vivre. C'est ce que montre d'ailleurs un peu la série, la violence de ce qu'on peut vivre. Ça peut être la violence du harcèlement scolaire, qui est quand même. C'est au collège que c'est le plus fort, hein, qu'on a le plus de problèmes de harcèlement scolaire. Et les adultes imaginent, c'est toujours mignonnet, qu'ils se volent un bonnet, etc. Mais il faudrait retourner pour se souvenir à quel point les enfants peuvent être cruels entre eux. C'est vraiment une violence. Et il y a parfois peu d'adultes, trop peu d'adultes pour les surveiller, pour les encadrer. La violence aussi de ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. La violence, la question de la sexualité, la violence, la question de la popularité. Ça peut sembler un peu ridicule, la popularité. Mais j'avais une ado qui me disait, mais voyez, c'est comme une pyramide. Alors, il y a ceux qui sont tout en haut de la pyramide. Ouais. Ceux qui sont tout en bas, c'est vraiment les losers, faut pas y être, c'est horrible. Moi, je suis au milieu, parfois je monte, parfois je redescends, je me faisais vraiment un modèle sociologique de la popularité, mais c'est struggle for life, et pardon, mon accent est pourri.
Oh non, il est meilleur que celui de Cyril. Enfin, plus maintenant qu'il est bilingue.
Vous le disiez, maintenant. Mais dans la série, il y a une scène hyper touchante, sans spoiler, entre un père et son fils. Le fils lui explique un peu le langage internet, le langage des réseaux sociaux. Le père ne comprend pas trop. Est-ce qu'il faudrait que les parents vraiment s'éduquent aujourd'hui, s'inscrivent sur TikTok, même si ils n'ont pas de compte, pas pour espionner, mais juste pour comprendre ce que leur enfant fait, en fait?
Je vais essayer de vous faire une réponse honnête. Moi, j'essaye de temps en temps de regarder avec les adolestants que je vois en consultation. Je leur dis, montre-moi ce que tu regardes sur TikTok, etc. J'arrive, et pourtant je suis quelqu'un de plutôt patient, etc. J'arrive à tenir 2-3 minutes maximum, parce que c'est vraiment de la bouillie de cerveau, il faut suivre le truc. Mais c'est quand même un peu le conseil que je donne. C'est plutôt que de dire à nos gamins, à nos ados, etc., c'est très mauvais, arrête. Dites-leur, montre-moi ce que tu regardes, et essayez, même si c'est un peu dur, vous allez voir, ça peut être un peu râpeux, de passer quelques minutes à regarder. Ça va vous sembler peut-être très trivial, pas très futé, mais au moins vous serez un peu au courant de ce qu'ils ingurgitent et ce qui se passe dans leur tête et de ce qu'ils voient. Moi, je dis juste un truc. L'impact que ça peut avoir sur les jeunes filles de voir tous ces modèles féminins qui sont totalement irréalistes parce qu'ils sont absolument parfaits. Et de voir ces gamines qui regardent ça en continu, puis après on se demande pourquoi elles viennent nous voir des troubles anxieux et des problèmes d'anorexie mentale.
Quentin.
Parfois, les filles en groupe disent des choses qui vont te blesser, elles vont t'afficher devant tout le monde, nous disent ces garçons dans la cour. On sent presque de la rancœur des garçons envers les filles. La fracture du genre se fait lorsqu'on arrive au collège.
Oui, c'est ce que la série aborde. D'ailleurs, vous avez vu, vos ados, ils n'ont pas osé en parler. Pourquoi c'est si violent et pourquoi ils sont séparés? C'est la question de la sexualité. Évidemment, ils n'y étaient pas confrontés 1 ou 2 ans avant. Et là, d'un seul coup, leur corps, la puberté, leur rappelle qu'il y a quelque chose, un processus violent qui se passe dans leur corps et qu'ils ne savent pas gérer. D'abord, on n'a pas le droit d'avoir une sexualité à 12 ou 13 ans, ou pas de la vivre en tout cas avec l'autre sexe. Et puis il y a les questions de popularité, de représentation, de harcèlement très rapidement, d'image, de contrôle de l'image. Je redis, on a vu vu la dégradation de la santé mentale des adolescents, on dit toujours le Covid. Il y a eu une première vague avant le Covid, c'est 2010 Instagram. On parlait de l'image, des représentations, et d'un seul coup, ces points de comparaison permanents, en fait, qui vous montrent comment il faut être, comment il faudrait être. Et ça a été une première, il y avait eu un bel article dans JAMA en 2019, donc c'était avant le Covid, qui montrait qu'il y avait eu 50% d'augmentation des idées de suicide chez les adolescents nord-américains après l'utilisation massive d'Instagram, qui est un outil formidable, moi je suis pas du tout contre, mais qui peut aussi faire du mal, et comme tous les outils.
France Inter.
Si seulement il s'était trouvé un œil avisé dans l'assistance, ce fameux 27 juin 2003, quand Manon Mariani reprenait le tube de Jean-Jacques Goldman lors du spectacle de fin d'année des 5e B.
Je veux
elle,
pas voir ça.
Elle ne serait pas obligée de supporter les anecdotes de Quentin Lui tous les jours dans l'open space, elle serait devenue une star dès l'adolescence. Au lieu de ça, elle s'apprête à jouer la mort dans l'âme à son 520e Zoom Zoom test. Mais cependant, je le sens toujours avec la même excitation. Un Zoom Zoom test qui sera donc dédié aux actrices et acteurs qui ont démarré adolescents dans un film ou une série. C'est parti. On n'écoute pas Nicoletta pour faire plaisir à Cyril, son amour de jeunesse, mais parce que ce titre figure sur la BO du Péril jeune. Vous vous souvenez certainement des débuts de Romain Duris et Vincent Elbaz, révélés dans ce film de Clapiche. Mais quelles sont les deux jeunes actrices qui figurent aussi au casting de ce film iconique, comme dirait Manon?
Ouais,
s'agit-il
bien
de
iconique.
Hélène de Fougerolles, Bérénice Bejo ou Élodie Boucher?
C.
Bonne réponse de Manon Mariani. Effectivement, tout le monde se souvient des deux gars, mais comme par hasard, personne n'est capable de citer une fille. Il y a encore du taf, Manon, mais vous vous en souveniez. C'est ça qui est beau.
Toujours.
Direction à présent les États-Unis d'Amérique. À la recherche d'une star mondiale qui a décroché un Golden Globe du meilleur acteur en 2017 et a déjà été nommée 3 fois aux Oscars. Une carrière qui a pourtant commencé modestement. Non, modestement dans des productions de seconde, voire de troisième zone, comme Fais-moi peur, Chahut au bahut, Les aventures de Shirley Holmes ou encore Chair de poule. Manon, Quentin, vous aurez sûrement reconnu car vous adorez les nanars. Ce bon vieux, Ryan Gosling, Channing Tatum ou Jake Gyllenhaal.
C'est
Jake Gyllenhaal, le plus mauvais acteur d'Hollywood avec David Schwimmer d'après Cyril Lacarrière, notre rédacteur
en chef. C'est pas ça.
C'est beaucoup trop tard, je vais pas vous donner le point. C'était effectivement la réponse A. Manon, normalement, on devait le savoir puisque vous dormiez avec le poster de Ryan pendant des années. Ryan Gosling a vraiment débuté dans le Mickey Mouse. Ah bon
oui. Non, pardon.
Un peu ennuyé.
Le message est passé, nous écoute tous les après-midi, il est déçu, voilà. Il a passé une mauvaise après-midi, Ryan. Ryan qui a donc commencé au Mickey Mouse Club aux côtés de Justin, Britney, Lindsay, Kristen et Christina.
Évidemment.
Qui a un peu plus de gueule que Magali, Fabien, Anthony et Christophe, les stars du casting de Premier Baiser. Oh, vous me voyez venir avec cette question de boomer, vu que l'auteur de ce quiz a presque 2 fois mon âge, auteur qui, je le signale, ne passe plus les portes depuis qu'un article sur les auteurs de l'ombre lui a été consacré. Il m'a même réclamé une augmentation de 20% sous prétexte que maintenant il était connu, merci Télérama. Bref, Gérald Darnaud, mon auteur, était un gros boomer. Vous n'échapperez donc pas à la question Premier Baiser. Dans la liste suivante, qui a fait une apparition dans cette série culte au début de sa carrière? Laurent Lafitte, Guillaume Canet ou Julie Gayet?
Oh là là.
B.
Julie Gayet dans Premier Baiser.
Guillaume Canet, il a fait des trucs en carottes et tout.
En carottes,
oui,
c'est-à-dire?
Oui, je crois qu'il a fait une publicité où il est déguisé en carottes.
Mais il y a plein de carottes dans Premier Baiser.
Mais je pense qu'il y a Laurent Lafitte, c'est sûr.
Ah bon?
Bon, votre réponse, Quentin.
Canet.
Et vous, les trois, Manon?
Bah oui,
vous dites. C'est une bonne réponse de Manon Mariani. Les trois. Écoutons.
Incroyable.
Attends, il faut bien se concentrer, ça va très vite. Il a une réplique.
J'ai vraiment dit au pif.
Il a une réplique. Écoutons rapidement les débuts de Guillaume Canet.
Virginie.
Guillaume, qu'est-ce que tu fais là?
Voilà, c'était sa seule réplique de l'épisode.
Ils
l'ont appelé Guillaume pour qu'il joue plus facilement.
on l'embrasse, c'est
bouleversant. Quant à Julie Gayet,
quelle histoire ça aussi.
Par amitié pour François Hollande, avec qui il est devenu cul et chemise depuis qu'on l'a invité ici, mon rédacteur en chef Cyril nous a demandé de ne pas diffuser l'extrait. Mais attention, question suivante. Celle qui va falloir deviner a tourné avec les plus grands. Greg Santoro, Pierre Woodman ou encore John... Pardon, je me suis mélangé les fiches avec le quiz sur les actrices préférées de Cyril qui ont décroché un hot dog. Elle a tourné, avec les plus grands, Pierre Salvadori, Ron Howard, Stephen Frears, Cédric Clapiche, Michel Gondry et bien évidemment Jean-Pierre Jeunet. En tant que cinéphile averti, vous avez sûrement reconnu Audrey Tautou grâce à cette liste et certainement pas en raison de la musique d'Amélie Poulain. Et pourtant, l'une de ses premières apparitions, Audrey Tautou, ne laissait pas présager une telle carrière car l'une de ses premières apparitions fut dans... Julie Lescaut, la série préférée de Manon.
Ça va pas.
Cordier jugé flic, la série préférée de Quentin. Ou Louis la Brocante, la série préférée de Cyril.
B. Ouais, moi aussi, Cordier, j'ai envie de dire Cordier.
J'ai ça, là, en ouais. fait.
Mais vous, c'est un petit peu au hasard, comme ça?
Non, je crois que j'ai...
Vous l'avez vu?
Bah, j'adore Cordier.
C'est vrai, c'est votre série préférée, j'ai oublié. Suis-je bête? C'est une bonne réponse. Dans l'épisode 3 de la saison 4, intitulé Le crime d'à côté, effectivement. Et juste pour vous, petit secret de tournage, c'est Cyril qui joue de l'harmonica sur le générique de Cordier jugé flic. Il était pas cher, il était là, expliquera le producteur.
Avec Pierre Mondy.
Avec Pierre Mondy.
Évidemment.
J'ai envie de dire l'inoubliable. Enfin, on termine en beauté avec celle qui a décroché un magnifique Oscar et un pathétique quand elle meurt dans Batman. Notre gloire nationale, Marion Cotillard. Éblouissante dans La Môme, émouvante dans Inception, bouleversante dans De Rouille et d'Os de Dodiard. Mais dans quelle série fut-elle à ses débuts un tout petit peu moins bouleversante? Extrême Limite, Classe Mannequin ou Les Filles d'à côté?
B.
Classe Mannequin?
Je sais pas. Oui.
J'ai envie de dire Extrême Limite.
A.
Vous dites Extrême Limite?
Oui, je dis ça.
C'est ça.
Eh bien, Quentin, mon cher Quentin, comme cette série me tient particulièrement à cœur, cette réponse vaut 3 points. Bonne réponse de Quentin, lui. Et évidemment, le cultissime Extrême Limite.
Je sais même pas ce que c'est, enfin j'ai jamais vu quoi.
Jusqu'au bout de l'extrême limite. L'épisode La fille de son père, où Marion Cotillard, tout juste 18 ans, sème la pagaille dans le cœur de Mathieu, un personnage auquel je m'identifie beaucoup vu qu'il s'appelait comme moi. Autant vous dire que quand Cotillard lui dit...
Moi je t'ai jamais vu toi.
Non, je suis nouvelle. Ça me fait tellement rêver l'ULM. Tu m'apprendras?
Oh là là, je peux vous dire que j'étais troublée.
Pardon? Ah oui, vous êtes tout rouge.
Oui, j'étais tout rouge. Bah, oui. Première apparition de Cotillard. Moi, j'ai pas oublié cette séquence de l'ULM.
Et vous l'avez emmené en ULM?
Mais non, pas du tout. Moi, je regardais la série.
Dans les montagnes suisses?
Bêta souffle. J'ai envie de vous enlever de votre victoire. Faites très attention.
Attention.
Victoire. Victoire de Quentin. Mon époque, on disait ça.
Mais en 54.
J'ai été adolescent en 1962.
Oh là là.
Le psychiatre spécialiste des adolescents et des jeunes adultes, David Gourion, est toujours avec nous dans Zoom Zoom Zen pour zoomer sur l'adolescence et ce qui se joue dans ce moment charnière d'une vie. David, est-ce que les ados arrivent à s'y retrouver dans le flux d'informations, d'images, tous ces écrans, de ce qui se dit sur les réseaux, au collège, dans la famille? Est-ce qu'ils arrivent encore à garder les pieds sur terre? Est-ce que le problème principal de l'adolescence en 2020, c'est les réseaux sociaux?
Ben, en fait, ils s'y retrouvent, je trouve, beaucoup, beaucoup mieux que nous, en fait. Hein. Ils ont grandi avec ça, c'est archi naturel pour eux. D'ailleurs, il y a un syndrome de manque terrible hein, quand ils n'ont pas accès et qu'on le téléphone est cassé ou perdu pendant 3 jours, ça peut être assez compliqué. Donc ils sont extrêmement à l'aise avec l'outil. Je pense qu'ils sont moins à l'aise avec le contenu de ce que l'outil propose, qui donne le sentiment d'une liberté absolue, d'un hyper choix. Alors qu'en réalité, ce sont des algorithmes qui vont déterminer et décider pour lui ce qu'il va voir.
Mais je crois que même dès le collège, ils ne sont même pas dupes des algorithmes. Ils savent qu'on leur propose certaines choses en fonction de leur goût supposé, en tout cas.
Ils savent, mais ils s'en fichent tant que c'est fun, tant que c'est amusant, tant que ça retient. Ouais, en fait, c'est vraiment tant que ça crée de la dopamine dans le cerveau, tant que ça maintient quelque chose d'un peu allumé, même si c'est débile, et ils sont les premiers à dire « c'est complètement débile, mais c'est drôle ». C'est drôle.
Manon. Comment réussir à garder le lien avec son enfant quand on est parent?
C'est une question anxieuse.
Non, mais parce que c'est quand même une question que soulève aussi la série et qui est beaucoup mise en avant.
Quand je travaille avec les jeunes, les adolescents, souvent la relation elle est mise en tension. Ils viennent me voir parce qu'ils ont des problématiques de santé mentale, de souffrance. Mais souvent la relation elle est mise en tension parce qu'on est un pays où on accorde énormément d'importance. Je dis pas que ça n'en a pas, mais énormément, sans doute trop d'importance aux résultats académiques. Mmh. Et donc il y a très souvent des bras de fer terribles chez des ados qui vont pas très bien, qui ont déjà des soucis, qui sont un peu déprimés ou anxieux, avec des parents qui arrivent pour qui l'enjeu principal c'est les notes ont baissé, ça m'angoisse terriblement, il ne faut rien, et il faut absolument lui mettre un coup de pied au cul. Et donc moi je suis venu là pour dire aujourd'hui, faites attention, il y a des ados, la plupart des ados vont très bien, il ne s'agit pas de paniquer, etc. C'est vrai que les choses se sont dégradées depuis le Covid et peut-être avant, mais il y a quand même une fraction d'adolescents qui va mal, voire très mal, ça ne se voit pas toujours. Et quand votre ado est en souffrance, écoutez-le, croyez-le, n'hésitez pas à consulter.
Mais quand le père dans la série, sans spoiler encore une fois, dit « j'aurais pu faire mieux », il aurait pu faire mieux selon vous ?
Écoutez, ce pauvre père, on a tous sauf envie de lui jeter la pierre, hein, parce qu'on voit bien qu'il est juste débordé. Il est lui-même. On sent que c'est un homme en colère, puis qu'il a du mal à parler. Il parle pas beaucoup. Il est très retenu. Il le joue d'ailleurs formidablement bien, l'acteur. Donc on sent que c'est quelqu'un d'un peu démuni. Il est même démuni vis-à-vis de son physique. On sait pas très bien au début qui il est, s'il est pas un peu colérique, un peu explosif. En fait, on voit bien qu'il est très doux. Donc ce père, je pense qu'il est perdu. Et puis je redis, il est perdu face à cette nouvelle génération qui maîtrise des nouveaux outils que lui ne maîtrise absolument pas. Vous l'imaginez pas, le pauvre, il a déjà du mal. Il est au chômage, allé sur TikTok pour essayer de comprendre ce que voit son gamin.
Tout à l'heure, dans le micro-trottoir, on entendait un adolescent qui nous disait, au contraire, que c'est aussi un bel âge, l'adolescence, le plus bel âge, l'âge de tous les possibles, de la liberté. Votre dernier livre, on en parlait, s'appelle « Le secret des ados heureux ». Il y a donc des ados qui sont parfaitement heureux. Et c'est quoi les secrets pour essayer de mener un adolescence vers le bonheur ?
C'est la question qui m'intéressait, parce que souvent, on s'intéresse à ce qui fait qu'un ado va aller mal, qu'on appelle les facteurs de risque. On parlait des stress académiques, le harcèlement scolaire, etc. Moi, j'ai voulu, dans ce livre aussi, aller regarder, parce qu'il y a des études qui le disent, quels sont les facteurs de résistance, de résilience chez les adolescents? Qu'est-ce qui peut aider un adolescent soumis à des facteurs de stress à aller bien? Je pense qu'on a abordé déjà pas mal de choses, mais en particulier la présence, la communication. Et j'ai envie de dire l'ambiance émotionnelle, l'ambiance que vous mettez chez vous, avec vos ados qui comptent plus que tout, plus que les notes, plus que tout le reste. C'est un peu comme une lumière, l'ambiance émotionnelle. Okay. Ce que vous dégagez, il faut qu'un adolescent à la maison, il se sente vraiment accueilli chez lui. Et même s'il vous repousse un peu, continuez d'être très très affectueux avec eux.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir maintenant l'autre personne à suivre.
Je vous présente Stephen Graham. Il a 51 ans, il est anglais et c'est un acteur absolument génial. Depuis des années, il incarne des personnages à la gueule cassée, des hommes agressifs, violents parfois. Il joue par exemple un skinhead raciste dans la série This Is England, un baron de la drogue dans Peaky Blinders, un boxeur dans la série A Southern Blow ou encore des gangsters dans les films de Scorsese, Gangs of New York et The Irishman. Ouais. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Stephen Graham a co-créé et co-écrit avec Jack Thorne la série Adolescence dont on parle, 4 épisodes, 4 plans séquences, 4 scénarios qui décortiquent comment un ado de 13 ans en vient à commettre un féminicide.
On est armés !
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Les mains en l'air !
Vous cherchez quoi ?
Les mains en l'air !
Qu'est-ce qui se passe ?
Papa ! C'est pas la bonne maison !
Il a rien fait !
Papa ! Mais c'est qu'un gosse !
Papa, j'ai rien fait, c'est pas vrai !
Stephen Graham dit qu'il a eu l'idée de la série après 2 faits divers en Angleterre, 2 jeunes garçons mineurs qui ont poignardé des jeunes filles. Il dit qu'il a voulu comprendre comment c'était possible.
Ce que je me suis dit, c'est que nous sommes tous coupables, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que ça vient de l'éducation des parents, du système scolaire ou du gouvernement. Je voulais étudier ça sans juger personne, mais en me demandant quelle était notre part de responsabilité à tous.
Et c'est justement à tous ces aspects que va s'intéresser Adolescence, notamment à la culture incels qui pullule sur les réseaux, ces communautés masculinistes qui détestent les femmes. C'est l'assistante de son co-scénariste qui va leur parler de cette sphère. Ni Stephen Graham, ni Jack Thorne, deux hommes d'une 50aine d'années, n'en avaient jamais entendu parler. Un des l'âge générationnel qui est aussi au cœur de la série. Comment les parents sont dépassés face au langage, à la technologie, au réseau qu'utilisent leurs enfants? Stephen Graham et Jack Thorne ne s'attendaient pas à un tel succès, mais ils y voient une opportunité. Ils ont dit à la BBC qu'Adolescence devrait être diffusée dans toutes les écoles comme un film de prévention. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est maintenant chose faite. Adolescence va être diffusée gratuitement dans les collèges et les lycées du pays, qu'a annoncé le Premier ministre anglais. En attendant, elle est disponible sur Netflix et tous les parents et les enfants devraient la visionner ensemble, si possible.
Merci Manon, David Gourion. C'est vrai ce que dit Manon, c'est une série qui nous, les adultes, nous marque très fort, mais à regarder en famille avec ses adolescents.
Oui, et qui ceci dit n'est pas facile. Hein. Elle n'est pas facile pour des adolescents. Il ne faut pas forcément non plus forcer tous les adolescents. Non, je pense qu'il y en a certains qui pourraient mal la vivre. Qui pourrait mal la vie faire des cauchemars, parce qu'elle est quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est quand même dure. Hein.
Très dure.
Ouais. Vous avez d'autres séries, d'autres films à conseiller qui parlent aussi de l'adolescence?
Moi, cette série, quand je l'ai vue, elle m'a fait penser au film The Son de Florian Zeller. Il y avait eu The Father, et puis ensuite, il décrivait la relation très compliquée, le fils. Et en fait, ce que j'avais trouvé extraordinaire dans ce film aussi, beaucoup plus intimiste, filmé différemment, c'est pas du plan séquence, enfin c'est un regard différent, c'est je trouve qu'il abordait quand même plus la question de la santé mentale. Je redis, dans Adolescence, qui est extraordinaire, hein, c'est une micro-critique, c'est très sociologique, on a l'impression que tous les adolescents pourraient faire ça s'ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux et que leur papa leur parle pas assez. Non, tous les adolescents, même qui baignent dans des cultures très virilistes, sont pas tous des meurtriers en puissance. Ça, faut pas non plus réduire. Donc il y a autre chose, quelque chose qui est bien plus complexe. Mais ce film The Son avait vraiment résonné.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
L'adolescence, c'est l'âge de tous les possibles. C'est quand on peut encore rêver d'être à la fois journaliste à France Inter, aventurier en Amazonie et humoriste sur Rire et Chanson. Dans l'histoire, un seul homme a réussi à vraiment faire tout ça à l'âge adulte. Bonjour Pierre Courage.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Pierre, comme chaque après-midi, vous allez nous résumer tout ce qu'on s'est dit avec le docteur Gourion, mais en une minute chrono.
Et le docteur Gourion, dont le cabinet est situé à littéralement 350 mètres de la maison de la radio, merci à lui d'être venu entre deux rendez-vous pour nous parler des adolescents. Ces jeunes plus vraiment enfants, mais pas encore adultes, que les politiques semblent avoir redécouvert au Royaume-Uni à la faveur de la série Adolescence. Une véritable prise de conscience des problèmes liés à cette période très importante dans la construction d'un individu. Physiologiquement, on peut dater le début de l'adolescence à 11-12 ans, et comme le cerveau continue à se former jusqu'à 25 ans, on peut estimer que cet âge, qui est aussi la moitié de l'âge de Cyril, comme étant la fin de l'adolescence. Mais dans la réalité, les choses sont plus complexes. David Gourion nous a expliqué que l'adolescence est aujourd'hui plus tardive, la dépendance aux parents est plus importante que dans les années 60 par exemple, et en même temps elle est plus précoce, le rapport aux réseaux sociaux joue un rôle important, la recherche de la popularité, le harcèlement, l'accès au porno qui est souvent la première vision de la sexualité, la femme objet peut pousser les jeunes ados dans les bras du masculinisme jusqu'au drame parfois, et c'est pour toutes ces raisons que David Gourion estime que la crise d'adolescence n'existe pas, il préfère parler de fragilité qui peuvent conduire à des troubles de la santé mentale, mais on peut aussi être ado et heureux, suffit de voir l'enthousiasme juvénile de Quentin et de l'adolescent qu'il a rencontré dans son micro-trotte qui disait qu'il vivait la plus belle période de sa vie, et c'est vrai que rétrospectivement c'était pas si facile, mais on s'en sort toujours grandi.
Merci Pierre. Vous nous parliez hors antenne, vous, d'une adolescente ambivalente en ce qui me concerne.
Ambivalente, oui, il y a eu deux périodes à mon adolescence, mais bon, on en parlera un petit peu plus tard, je pense.
Ah oui, il faudra beaucoup plus qu'une minute chrono pour résumer tout ça. Alors, malheureusement, Camille Lorente n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, et c'est sa version adolescente qui assurera la chronique. Bonjour Camouze.
Salut les manes. Et ouais, c'est Camille de 2005, alias Camouze. Yo, Ardèche libre, bien sûr. Qui veut du Passoa. Et ouais, c'est moi qui fais la chronique aujourd'hui. Je suis l'ado intérieur de Camille. Ça fait grave plaisir en tout cas d'être là, parce que moi, ça faisait 20 ans que j'étais bloquée dans une faille temporelle, en fait. Ouais. Une galère condamnée à slammer dans un concert de Marcel et son orchestre. Mais n'empêche, quand j'ai su qu'il passait à Bourg-les-Valences, le choc, quoi. J'ai pris direct ma place, enfilé mon sarouel, on a sauté dans le camtar avec Speed. Alors, je sais pas si Marcel et son orchestre, ça parle à toute l'équipe, parce que voilà, différentes générations, différentes adolescences, mais en gros, pour Cyril et Mathieu, ben, c'est comme à votre époque quand le clavecin a débarqué, quoi. En tout cas, ravi de faire votre connaissance. Bah ouais, Camille n'a pas toujours été ce sex symbole de l'intelligentsia que vous connaissez aujourd'hui. Après, voilà, moi, je veux pas faire des clichés sur les ados, mais c'est vrai que j'ai eu un t-shirt Duché avant de savoir qui c'était. Bah, pendant longtemps, je pensais que c'était Philippe des Toubifri avec une barbe et un béret. Alors que pas du tout, en tout cas, paix à son âme. Mais voilà, Camille, elle a été ado, enfin l'ado, quoi, dans toute sa splendeur. Celle qui fait sécher des fils de bananes sur la fenêtre, car la rumeur dit que c'est un puissant psychotrope. Alors en fait, pas du tout, hein. Quentin, tu peux arrêter de fumer, ça, vraiment, ça marche pas. Celle qui met pas de culotte, parce que les sous-vêtements, c'est rien que des petites prisons capitalistes pour notre intimité, ok. Alors que, en fait, pas du tout, Manon, tu peux remettre des slips. Non, mais c'était vraiment une belle époque. Enfin, j'avais pas encore le papillomavirus. Donc, par contre, j'étais grave en colère, en fait. Et on se souvient du point culminant de ma rébellion, quand j'ai décousu l'étiquette de mon ISPAC pour le remplacer par un écusson feuille de cannabis. J'étais folle, en fait. L'étape suivante, c'est juste la révolution, quoi. De toute façon, on m'avait tellement répété qu'en fait, être ado, c'était être en crise, que pourquoi pas porter un manteau en laine orange, fabriquer mes propres écarteurs en pâte fimo et claquer toutes les portes qui passent, en fait. Je tiens quand même à remercier mes darons qui m'interdisaient de tout faire, en fait, parce que bah, sans eux, j'aurais jamais appris à si bien faire le mur. La Houdini du 07, vraiment, aucune clôture ne me résiste désormais, quoi. Bah, c'est bien simple, quand je vais à la maison de la radio, je passe pas par la porte, j'enjambe la grille du parking, en fait. Je suis inarrêtable. Vraiment, si je perce pas dans l'humour, je peux devenir conseillère France Portail, en fait. Ah bah, coulissant électrique manuel, retrouver tous mes tips pour passer dessous-dessus à travers afin d'aller boire des Smirnoff et toucher des pénis de skateurs à travers leur baguille. En m'attendant Requiem for a Dream, c'est un bonheur. Bah, sinon, moi, j'ai pas été harcelée au collège grâce à Jack qui guide mes pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu des remarques qui laissent des traces. En fait, en troisième, je lisais le journal de Kurt Cobain et il disait qu'il était un mélange de tous les gens qu'il avait croisés. Et putain, c'est le truc le plus deep que j'avais jamais lu, en fait, quoi. Du coup, j'ai demandé à ma mère de m'acheter des Converse pour ressembler à Kurt. Et dans la cour du collège, cette peste de Caroline, elle m'a dit, c'est quoi ces chaussures de clown? Waouh! Ah, je te jure, bah, elle a eu de la chance que j'étais non-violente et pacifiste. Je déconne, j'étais juste défoncée. Ouais, parce qu'il faut quand même dire qu'à 15 ans, j'avais une santé mentale fragile. Bon, moi, à mon époque, il n'y avait pas de smartphone, pas de réseaux sociaux. Voilà, bah, nous, les écrans, c'était soft. Hein. On allait en salle informatique entre midi et deux. Voilà, mater tout Girls One Cup. Ou des photos de gens décapités sur Rotten. Enfin, c'était tranquille, franchement. N'empêche que j'ai jamais eu autant envie de crever que pendant mon adolescence, quoi. Un jour, j'ai failli en finir en mélangeant des cônes d'encens et de l'eau précieuse. Je me suis pchité ça dans les yeux. Bah, je suis pas morte, mais j'ai vu la vie en patchouli pendant 3 jours. Moi, ce qui me faisait le plus flipper en tant qu'ado, en fait, c'était finir dans un taf de bureau. Après, on m'a obligé à faire des études et tout, mais vas-y, la vengeance est un plat qui se mange 20 ans plus tard sur une radio nationale. Franchement, trop contente pour Camille qu'elle bosse ici. En plus, c'est grave raccord avec mes principes de pas gagner d'argent et tout. Donc franchement, arrêtez jamais d'écouter votre ado intérieur, les gars. Bah, sinon, c'est simple, vous allez finir de droite comme Mathieu, à traiter les gens de bêta-sous et à croire que c'était mieux avant, alors que la vérité, c'est que ça ira mieux demain. Peace.
Merci beaucoup, Camus. Camille, Laurent, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci, David Gorion, de nous avoir éclairé sur cet âge complexe qu'est l'adolescence. Je rappelle votre dernier ouvrage, Le secret des ados heureux pour protéger la santé mentale de nos enfants. C'est chez Odile Jacob. Merci d'avoir été beaucoup avec nous.
Zoom Zoom Zen.